Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Planète Business, l'émission qui décrypte les grandes dynamiques économiques et sociales qui transforment notre continent. Aujourd'hui, nous parlons d'un enjeu central, stratégique, presque vital, l'énergie. Le gaz peut-il devenir le moteur d'une Afrique plus industrialisée, plus compétitive et plus souveraine énergiquement? Pour en parler, nous recevons un acteur clé de cette réflexion et de cette action, Elhaj Mbey, expert des questions énergétiques et aussi industrielles. Avec lui, nous allons explorer le gas to power, ses promesses, ses limites, ses impacts économiques, sociaux et aussi environnementaux. Monsieur Mbey, merci aujourd'hui de nous servir également de guide dans cette orientation, mais aussi dans ces questionnements concernant aujourd'hui la RSE vue à travers le gas to power.
Oui, bonjour M. Touka et ravi d'être encore sur vos antennes et bonjour à tous qui nous écoutent.
Et justement, sans plus tarder Monsieur Mbey, pourquoi le gas to power est-il aujourd'hui stratégique pour l'Afrique et particulièrement pour nos économies émergentes?
Oui, effectivement, une question essentielle. Pourquoi, effectivement, ce gaz to power est stratégique? Parce qu'effectivement, vous savez, le continent africain, on dit souvent qu'il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'accès à l'électricité. C'est vraiment une réalité. Mais justement, l'Afrique n'a pas besoin que de ça. L'Afrique n'a pas besoin que, effectivement, de fournir de l'électricité à ces 600 millions. L'Afrique a besoin de s'industrialiser, on va en parler. L'Afrique a besoin de faire tourner des usines. Et pour cela, effectivement, le gas to power devient, en tout cas, stratégique pour ce continent. Parce que, typiquement, on va en parler, les énergies renouvelables dont on parle ne pourront pas, à elles seules, satisfaire les besoins d'industrialisation. Et je précise bien, d'industrialisation. Parce qu'effectivement, si on fait la part des choses entre électrification et industrialisation, il y a vraiment en fait une différence fondamentale. Ce sont les besoins, en tout cas d'énergie, qui font que l'Afrique, effectivement, a un besoin d'utiliser son gaz et de manière, en tout cas, stratégique. Parce que, on le dit souvent, il faut vraiment une énergie abondante et à faible coût. Et sur ce point, si l'Afrique a besoin de s'industrialiser, l'Afrique n'a pas d'autre choix que de mettre en service effectivement toutes ses réserves hydrauliques, vraiment qui produisent vraiment des mégawatts. Ça, on ne les connaît pas parce que c'est de l'énergie renouvelable. Mais l'Afrique aussi a besoin de transformer son gaz en power, en énergie, pour faire tourner ces usines. Moi, je rappelle souvent, en fait, une carte nocturne d'une Afrique qui est dans le noir pendant que l'Europe et le reste du monde est vraiment éclairé, quoi. Et tout ça, je veux dire, c'est un déficit criard, c'est vraiment une précarité énergétique extraordinaire. Voilà.
Et aujourd'hui, dans cette même dynamique, M. Mbey, concrètement, comment le gas to power peut-il accélérer l'industrialisation africaine?
Oui, effectivement. Vous savez, en fait, il y a souvent, des critères de choix vraiment dans l'implantation en fait d'une industrie par effectivement un investisseur. Quand un investisseur effectivement décide d'aller dans un pays, que ce soit africain ou autre, vraiment il y a des critères qu'il met au devant. Le premier critère qui n'est pas discutable, et ça vraiment tout le monde est d'accord dessus, il faut que le pays soit sûr. Voilà. Donc, avant de mettre son argent quelque part, il faut que le pays vraiment présente un niveau de sécurité optimal. Alors, si on sort de ce cadre, il y a deux leviers qui sont essentiels pour un investisseur. C'est la main-d'œuvre qualifiée et c'est une électricité fiable et abordable. Et justement, dans ce...
Oui, allez-y, professeur, bien sûr.
Effectivement. Et dans ce chapitre, effectivement, il n'y a que, effectivement, une électricité, quand on parle d'électricité fiable et abordable, effectivement, il faut que ça, qu'il n'y ait pas d'interruption, que le kilowattheure soit vraiment, en fait, je veux dire, abordable, si je puis dire. Voilà. Donc, typiquement. Alors, le besoin en Afrique, l'Afrique a besoin de transformer ses matières premières, typiquement la bauxite qui est au Guinée, le fer qui est aussi au Sénégal, etc., etc. Mais ça, c'est des industries lourdes qui sont énergivores, qui demandent beaucoup d'énergie. Et au-delà de ça, il y a l'avenir qui sont les data centers, l'intelligence artificielle, etc. Mais tout ça font que vraiment l'Afrique a un besoin criard d'industrialisation. Et c'est là où justement on mesure la place du gaz de power vraiment dans ce système, comme on dit, énergétique. Voilà.
Dans ce système dit énergétique, aujourd'hui, le gaz est-il, bien évidemment, dans cette même orientation, est-il une vraie énergie de transition ou un frein au renouvelable ?
Effectivement, on a tendance à mettre en opposition effectivement ces deux énergies. Moi, je dirais souvent qu'elles sont complémentaires parce que les énergies renouvelables, comme on dit, il n'y a pas de pollution, on est d'accord. Mais en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que, en fait, en termes de pollution, due aux énergies fossiles typiquement, il y a une classification. On a le charbon qui est vraiment, qui détruit la planète. Ça, vraiment, tout le monde est d'accord. Mais quand on compare effectivement le charbon par rapport au gaz, le gaz est deux fois moins polluant que le charbon. Voilà. Et je vous dis, sous ce chapitre, on voit nettement effectivement la place que peut occuper effectivement le gaz, en tout cas dans une transition énergétique. Alors, comme je l'ai dit tantôt, l'Afrique est dans une course de vitesse. Il faudrait que cette Afrique, effectivement, s'éclaire, ça c'est une chose, mais il faudrait que cette Afrique s'industrialise, il faut que cette Afrique sorte de sa précarité, sorte de sa pauvreté. Et encore une fois, ce ne sont pas uniquement les énergies renouvelables vraiment qui vont sortir de l'Afrique de cette précarité. Moi, je donne souvent, en fait, disons une comparaison par rapport aux densités de consommation entre un Africain et quelqu'un qui vit en Occident. Je veux dire, les rapports voilà, il y a quelques chiffres que je peux vous balancer.
Allez-y, bien sûr, allez-y.
Oui, tout à fait. Dans le continent africain, on parle souvent de 50 à 400 kWh par personne et par an. Mmh. Tenez-vous bien. Et en Europe ou aux États-Unis, on parle de 6 000 à 12 000 kWh par an et par habitant. Alors, si on fait le rapport, vous comprenez avec moi, voilà, le rapport est plus de. Ça dit qu'un occidental peut consommer plus de 20 fois un Africain. Voilà. Donc, typiquement, c'est vraiment le cas. Et si l'Afrique avait juste besoin de s'éclairer, encore une fois, la nuit, ben les énergies renouvelables, croyez-le, peuvent satisfaire les besoins. Mais encore une fois, si on rentre dans l'industrialisation, ça, c'est autre chose. Et moi, sur ce chapitre, souvent, je met en garde, en tout cas les Africains, de ne pas confondre un taux d'électrification, un taux plutôt, de part de renouvelables et une capacité électrique, parce que c'est deux choses différentes. Juste pour préciser ce chapitre, au Sénégal, par exemple, on parle souvent de 40% de part de renouvelables à atteindre d'ici 2050, d'ici 2040. Mais typiquement, si on atteint ce taux alors qu'on n'a pas une capacité électrique industrielle, croyez-le, ça ne sert absolument à rien. Donc moi, je veux que vraiment que le match soit très clair, qu'on parle de taux, effectivement, de renouvelables, c'est une bonne chose, mais qu'on mette l'objectif aussi sur notre capacité électrique qui nous permet vraiment d'aller vers l'industrialisation. Voilà.
D'aller vers l'industrialisation. Nous allons d'abord, professeur, faire le point un peu de cette actualité RSE aujourd'hui, en faisant bien évidemment le tour de ce qui se passe dans le monde, en Afrique notamment, en ce début d'année 2026. Tout de suite, la minute RSE avant de revenir avec notre invité, M. Elash Baye.
Bienvenue dans votre Minute Actu RSE. Dans le monde, la responsabilité des entreprises continue d'évoluer vers des engagements concrets et visibles. Par exemple, Qnet vient de dévoiler sa stratégie 2026 alliant transparence, protection des consommateurs et lutte contre les arnaques. Preuve que la RSE est aussi devenue une question d'éthique et de gouvernance. Du côté des grandes entreprises, la Hilton Global Foundation investit 5,4 millions de dollars pour renforcer la résilience des communautés, soutenir la formation professionnelle et lutter contre l'insécurité alimentaire. Même le sport s'y met avec l'initiative Cricket for Good qui a mobilisé plus de 1000 enfants lors du T20 World Cup, transformant une grande compétition en moteur d'impact social. En Afrique, les efforts se multiplient. À Conakry, un forum sur la RSE et l'ESG rassemble entreprises et acteurs locaux pour partager les meilleures pratiques et récompenser les initiatives durables. Et bientôt, Lagos accueillera le Africa Shared Value et ESG Summit, un événement majeur pour intégrer la valeur partagée et l'ESG dans les stratégies africaines. Aujourd'hui encore, la RSE n'est plus une option. Dans le monde comme en Afrique, elle devient un levier incontournable de croissance durable, d'impact social et de crédibilité des entreprises.
De retour avec notre invité, toujours dans le cadre du Gas to Power, aujourd'hui également la responsabilité sociétale des entreprises aussi. Alors professeur, les populations ressentent-elles d'ailleurs déjà les bénéfices de ces projets énergétiques?
Oui, moi je pourrais parler du cas du Sénégal, parce qu'effectivement le Sénégal, on le dit un peu partout, est devenu pays producteur de pétrole et de gaz. Est-ce que les populations sentent effectivement les bénéfices? D'abord, sentir effectivement les bénéfices, c'est typiquement sur le coût du kilowattheure. Est-ce que l'électricité a baissé au Sénégal? Voilà. Typiquement, on a eu une petite baisse, en fait, dernièrement, parce qu'effectivement, en termes de tarification, pour ceux qui nous écoutent, il y a une tarification au Sénégal, une première tranche, une deuxième tranche, une troisième tranche, si je puis dire. Et effectivement, il y a une petite baisse de 10% qui a été accordée sur la première tranche, qui est de 0 à 150 kWh. Et ça, en fait, c'est une baisse ciblée typiquement pour les faibles consommateurs, les très faibles consommateurs. Voilà. Maintenant, le consommateur lambda, le consommateur moyen, ça, c'est vraiment autre chose. Si on pose la question, est-ce qu'ils sentent la baisse? Ben, on va droit vers la période de forte consommation, qui est vraiment la chaleur. Voilà. Quand la chaleur va arriver, effectivement, les frigos vont tourner, les climatiseurs vont tourner, et on va s'en rendre compte qu'effectivement, les kilowattheures vont grimper. Est-ce que le gaz dont on parle a un impact? Je veux dire, les Sénégalais vont s'en rendre compte, clairement non. Parce qu'effectivement, en termes d'options, jusqu'à présent, majoritairement, à peu près 70%, l'énergie du Sénégal provient du fuel qui est toujours importé. C'est un paradoxe. Voilà. Et effectivement, le gaz devait nous permettre vraiment de souffler, comme on dit, d'arrêter ses importations et puis de tirer vers le bas le prix de l'électricité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et si nos centrales continuent à fonctionner à partir du fuel qu'on importe, typiquement, c'est un problème. Et pour le cas du Sénégal, il semblerait que il y a une option de baisser le coût du kilowattheure sur le projet de Yakateranga. Yakateranga, c'est un puits qui est en deep water, qui est vraiment en eau profonde. Et typiquement, ce puits n'est pas encore exploité, n'est pas encore le gaz qui se trouve sur ce puits n'est pas encore, on n'a même pas encore trouvé de d'exploitant. Et on parle effectivement d'arrimer le kilowattheure à ce projet. C'est pas pour demain, ça c'est clair.
C'est pas pour demain également, mais aujourd'hui la question qu'on se pose aussi, Monsieur May, c'est comment concilier croissance énergétique et responsabilité climatique.
Oui, effectivement, c'est une question intéressante parce que moi je dis souvent effectivement, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, si effectivement les besoins énergétiques des populations ou bien de l'industrie pouvaient être couverts par les énergies renouvelables, croyez-le, à l'heure actuelle, je pense qu'on parlerait très peu de changement climatique. Mais la réalité en est que ce qu'on appelle les fameuses énergies renouvelables ne peuvent pas se substituer aux énergies fossiles. Et c'est ça la réalité. Voilà. Maintenant, effectivement, il y a cette réalité qui est là, cette responsabilité climatique. On sait que le gaz pollue beaucoup moins que le charbon. Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Ils sont en train de faire des efforts pour, en tout cas, arrêter le charbon. Quand on va en Europe, mais je ne parle pas des Chinois, mais des Européens en particulier, ils sont en train de faire des efforts parce que en matière de pollution, en matière de responsabilité climatique, il y a ce qu'on appelle les pollueurs historiques et les pollueurs actuels. Mmh. Les pollueurs historiques, c'est vraiment, en fait, les Occidentaux, c'est l'Europe, ce sont les États-Unis qui sont en train de faire des efforts pour diminuer le charbon. Mais les pollueurs actuels, c'est la Chine. Et la Chine, elle est charbon. Même si elle fait des efforts dans le renouvelable, mais la Chine, qui constitue l'usine du monde, effectivement, c'est un pays dont l'énergie provient du charbon. Alors, les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la crise ukrainienne, la crise russo-ukrainienne, avec la fermeture du Nord Stream? Ben, en fait, typiquement, ils n'avaient pas d'autre solution que d'abord de réouvrir ça pour certains pays, malheureusement, les centrales à charbon, c'est le cas de l'Allemagne, ça il faut le dire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport au gaz? Ben, ils l'ont labellisé énergie verte, complètement. Voilà. Énergie verte, ça veut dire qu'une énergie qui ne pollue pas.
Tout à fait.
C'est juste pour dire, M. Toukara, ce monde est fait d'intérêt. Mm-hmm. Et chacun tire la couverture de son côté. Il faudrait que les Africains soient conscients que nous devons prendre en main notre destin.
Et ce qui est le plus important en prenant en main notre destin, c'est aujourd'hui de faire preuve de responsabilité sociétale, notamment dans les entreprises, aujourd'hui au vu de ce nouvel ère qui s'ouvre pour l'Afrique. L'Afrique est au cœur de ce développement qui se dirige vers une orientation, vers une ère où l'Afrique sera au devant comme elle a toujours été dans une certaine mesure. Merci encore à vous, Monsieur Elhaj Mbaye. Je rappelle donc que vous êtes aujourd'hui un expert dans le cadre de l'industrie de l'énergie principalement. Merci de nous avoir servi aujourd'hui d'invité. Merci également à vous pour cette confiance renouvelée à votre émission Planète Business.
C'est bon, je vous remercie et je vous dis à bientôt et toujours disponible à répondre à vos questions.
Merci également à vous de cette confiance renouvelée. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro dans votre émission Planète Business. Au plaisir.